On dit souvent que l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est une révolution. Mais en fait, c'est pas du tout comme l'invention d'une nouvelle calculatrice, tu vois. C'est vraiment, et le mot est pas trop fort, du même ordre que l'arrivée de l'électricité.
Ouais, complètement. C'est un changement de paradigme total.
Et la vraie question aujourd'hui, bah, c'est plus de savoir si on va s'en servir, ça c'est une évidence pour tout le monde. La vraie interrogation la plus brutale, en fait, c'est de savoir si on va se contenter de se brancher sur le réseau électrique de quelqu'un d'autre ou si on va construire notre propre centrale.
C'est une excellente métaphore, et c'est exactement le cœur de notre plongée d'aujourd'hui. On va décortiquer un document assez provocateur qui est sorti cette année en 2026.
Oui, le livre manifeste qui s'appelle « L'Académie de la singularité marocaine », écrit par Adnan Benchakroun. Je suis vraiment impatiente d'en parler parce que c'est dense. Hein.
Très dense, ouais. Ce texte, c'est un peu un révélateur photographique. Il s'articule autour d'une thèse vertigineuse, l'idée que l'humanité est en train de passer son, je cite, « dernier examen face à l'IA ».
Et c'est marquant parce qu'il utilise le Maroc comme terrain d'étude, comme un laboratoire grandeur nature, en fait.
C'est ça. Mais les mécanismes qu'il décrit s'appliquent à n'importe quelle société qui essaye de ne pas se faire broyer par cette révolution. Il démontre comment une nation peut se retrouver cognitivement colonisée par des algorithmes étrangers. Et le pire, c'est que ça se fait presque par accident.
Ouais, juste en cherchant à se moderniser, quoi. Le but de notre analyse aujourd'hui, ça va vraiment être de comprendre cette mécanique. Comment on évite de céder notre capacité de réflexion à des machines.
Et surtout, comment sauver l'essence même de la responsabilité humaine. Parce que pour comprendre l'urgence, il faut d'abord regarder ce que l'auteur appelle le piège de la modernisation de surface.
Ah oui, ce concept est super intéressant. En apparence, on a l'impression que tout va bien. Les boîtes intègrent des modèles de langage, les administrations parlent de transformation digitale à tout va.
Ouais, on achète des abonnements cloud, des interfaces à des géants technologiques.
Voilà, et on se sent hyper à la pointe du progrès. Mais c'est là qu'est le piège, non?
Exactement. Le manifeste prévient que cette adoption frénétique, c'est en fait une forme de dépendance invisible. C'est ce qu'il appelle le choc entre Casablanca et la Silicon Valley.
Attends, explique un peu ça. Pourquoi il dit que c'est une colonisation?
Quand une société achète une solution d'IA sur étagère, elle n'achète pas juste un outil neutre. Elle signe pour une infrastructure lointaine. En fait, la colonisation d'aujourd'hui n'a plus besoin de navires de guerre.
Elle passe par des API?
Voilà, des interfaces de programmation et des conditions d'utilisation que personne ne lit jamais, mais qui dictent littéralement comment l'information est traitée chez nous.
Du coup, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Face à l'urgence économique, face à la compétition mondiale, pourquoi s'encombrer de ces questions éthiques?
C'est la réflexion classique, ouais.
Oui, ça semble tellement plus rapide et rationnel de prendre un modèle américain ou chinois super performant qui a coûté des milliards et de juste traduire l'interface. Pourquoi réinventer la roue quand la maison brûle?
Je comprends l'argument, mais il cache complètement la réalité technique de l'IA. Un modèle de langage, c'est pas une feuille Excel. Il est le fruit des données qui l'ont nourri, tu vois.
Ouais, il ingère des milliards de textes, de forums, d'articles.
C'est ça. Et ces données reflètent une vision du monde bien précise. Importer une IA étrangère, c'est importer ses priorités culturelles, ses normes sociales, sa vision du droit ou de la politesse. La traduction linguistique n'efface pas du tout cette architecture de pensée.
En fait, si on soulève le capot, c'est qu'une histoire de probabilité statistique, non? Ces modèles prédisent juste le mot suivant.
Exactement. Et si la majorité des données vient de la côte ouest américaine, l'algorithme va naturellement privilégier des solutions qui ont du sens là-bas.
C'est le fameux biais. Genre, si on demande à cette IA d'optimiser la gestion de l'eau pour l'agriculture sèche au Maroc, l'algorithme va appliquer des logiques pensées pour les immenses plaines irriguées du Midwest américain.
Voilà. Et forcément, ça marchera pas. Ça crée des aberrations. C'est pour ça que l'auteur dit qu'il faut pas essayer de concurrencer les superpuissances sur les modèles généralistes. C'est perdu d'avance.
Il faut créer des niches, c'est ça.
C'est la clé de la souveraineté cognitive. Il faut investir des niches vitales, développer des modèles entraînés sur les réalités climatiques locales, le stress hydrique de la région.
Et sur les langues aussi, j'imagine.
Surtout sur les langues locales, comme la Darija ou la Mazir. Ne pas le faire, c'est accepter de devenir un marché transparent où nos problèmes intimes sont gérés par des cerveaux synthétiques étrangers.
Mais du coup, pour bâtir ça, il faut des ingénieurs, des développeurs. Et là, on tombe sur un goulot d'étranglement massif, le système éducatif.
Ah, le grand point noir. Si on refuse la dépendance, on doit former des esprits capables de construire des alternatives. Mais le constat du livre est glacial sur ce point.
Ouais, j'ai lu ça. Il dit que l'école actuelle fabrique des profils qui sont technologiquement périmés avant même d'avoir leur diplôme.
Il la décrit comme une vaste usine à réponses. Ça fait un siècle qu'on base l'évaluation sur la mémorisation. On enseigne un truc et l'élève doit le recracher à l'examen.
Et avec l'IA générative, ce modèle implose complètement. Parce que la machine est infiniment meilleure pour synthétiser, recracher des dates ou faire des dissertations.
C'est clair, c'est fini.
C'est un peu comme si on avait passé des décennies à entraîner des athlètes pour une course à pied, et le jour J, tout le monde a le droit de prendre une moto. Ça n'a plus aucun sens.
C'est une super image. Et le péril, c'est pas juste la triche. C'est pas que les élèves fassent leurs devoirs par la machine.
C'est quoi alors le vrai drame?
C'est l'atrophie de l'effort mental. C'est l'abdication de la réflexion. La facilité crée l'obsolescence. Quand l'IA sort un texte parfait sans faute, l'illusion de compétence est totale.
L'élève n'a plus besoin de lutter avec ses propres pensées pour formuler une idée. Du coup, l'académie propose quoi pour changer ça?
Une bascule radicale. L'examen ne doit plus demander la bonne réponse, puisque la machine l'a déjà. L'évaluation, ça doit être démontrer pourquoi cette réponse fournie par l'IA mérite d'être crue.
Waouh! Donc on demande à l'élève de passer d'une encyclopédie sur pattes à un éditeur en chef.
Ou un auditeur critique.
C'est exactement l'idée. Et ça, ça demande de bien comprendre les hallucinations de l'IA. Tu sais, quand la machine invente des faits avec un aplomb terrifiant, parce qu'elle manque de données.
Oui, parce qu'elle ne sait pas qu'elle ment. Elle cherche juste le mot statistiquement plausible suivant. Et pour détecter ça, il faut une sacrée culture générale.
Bah oui. Si tu connais rien au sujet, tu peux pas contredire l'assurance absolue de l'algorithme. C'est pour ça que le manifeste imagine une nouvelle institution, l'Académie de la singularité marocaine. C'est là qu'on entre dans la partie presque science-fiction du livre. Cette académie repose sur trois piliers, c'est bien ça, hein ?
Ouais, la maîtrise technologique pure, la souveraineté des données et la préservation d'humanité. Le but, c'est de former les cerveaux de l'ère post-humaine.
Les fiches de poste décrites sont folles. Ils parlent de nouveaux métiers hyper spécifiques.
Comme les architectes d'agents IA qui conçoivent des systèmes autonomes. Mais surtout, ils imaginent des métiers de garde-fous.
Genre des juristes de la donnée souveraine.
Et des ingénieurs de langue marocaine. J'adore cette idée. Leur but, c'est de cartographier la complexité de l'amazigh ou de la darija. Pour que la machine saisisse les sous-entendus, l'humour, les références historiques. Pas juste une traduction littérale nulle.
Et il y a ce métier d'auditeur de biais culturels aussi. C'est quoi exactement ?
Bah, c'est des gens qui passeraient leur journée à torturer les modèles. Ils injectent des requêtes complexes pour voir comment l'IA réagit face à des dilemmes moraux locaux.
Ah, pour débusquer les angles morts avant de déployer l'algorithme dans la vraie vie.
C'est ça. Et un point crucial de cette académie, c'est l'obligation du terrain. L'auteur refuse de créer une caste d'aristocrates du code cloîtrés dans des bureaux climatisés.
Ouais, il veut qu'ils résolvent des problèmes concrets, s'attaquer au décrochage scolaire dans les villages ou optimiser l'irrigation pendant les sécheresses. Il faut que l'IA se frotte à la poussière.
L'isolement technologique produit de la mauvaise technologie. Mais ça pose la question des autres métiers, les métiers classiques.
C'est ce que j'allais te demander. Que deviennent le comptable ou l'agriculteur dans ce scénario? Ils disparaissent?
Pas du tout. L'arme à l'or du travail se déplace. Face à une IA qui croise 1000 factures en une seconde, le comptable arrête de faire de la saisie.
Il devient quoi alors, Somme?
Un superviseur. Il intervient là où l'algorithme bloque sur une ambiguïté, une zone grise dans la loi fiscale ou un contexte d'entreprise spécifique que les maths ne peuvent pas capter.
Pareil pour l'agriculteur, du coup.
Exactement. Il devient pilote d'un écosystème de données. Il gère des capteurs d'humidité du sol, des prévisions météo hyperlocales. Le travail répétitif est fait par la machine et l'humain prend la décision stratégique.
Ça a l'air super sur le papier pour le privé. Mais cette quête d'efficacité va inévitablement toucher l'État. Et là, le livre soulève un paradoxe fascinant sur la gouvernance algorithmique.
Ah oui, c'est la partie la plus politique. Remplacer la bureaucratie par une IA, ça ressemble au summum de progrès.
Bah oui, une administration sans faille, sans file d'attente à 6 heures du mat, sans corruption, dispo tout le temps. Pour des gens fatigués de la lenteur administrative, une IA froide et rationnelle, ça ressemble presque à une libération.
Sauf que l'efficacité, c'est le cheval de Troie de la dépossession démocratique, selon l'auteur. Le danger extrême, c'est une phrase très simple, le système a décidé.
Ouch.
La fameuse boîte noire.
Voilà.
Un citoyen à qui on refuse une aide sociale se retrouve face à une machine sans empathie, incapable de ressentir l'injustice.
Et techniquement, c'est opaque. L'IA peut même pas toujours expliquer pourquoi elle a rejeté un dossier à cause de ses millions de paramètres.
Et le pire, c'est si l'IA a été entraînée sur des archives de l'administration. Elle a ingéré tous les biais humains du passé.
Ah oui, genre, si les fonctionnaires d'il y a 10 ans rejetaient plus souvent les dossiers d'un quartier précis, l'IA va repérer ça.
Et elle va l'automatiser. On invente l'exclusion polie et mathématiquement inattaquable. C'est terrifiant.
C'est pour ça que la contestation est vitale. L'essence de la démocratie, c'est de pouvoir s'adresser à un humain responsable qui peut contourner la règle si elle est absurde.
Retirer cette friction, c'est retirer l'humanité du service public. C'est pour ça que la singularité doit d'abord s'enraciner dans le monde rural, pas juste être un luxe urbain.
Un agriculteur isolé qui reçoit des conseils vitaux en dialecte via un assistant vocal, là, c'est une technologie au service du vivant.
Tout à fait. Et ça nous amène à la dimension la plus vertigineuse du livre.
La spiritualité. Parce que si déléguer un permis de construire à une machine, c'est risqué, que dire quand on lui délègue notre morale ?
C'est l'IA spirituelle. Dans des sociétés très croyantes, des gens vont utiliser des chatbots pour des dilemmes existentiels ou religieux.
Et la machine a l'air d'avoir une sagesse divine parce qu'elle a accès à tous les textes sacrés de l'histoire. Elle peut te pondre une fatwa ou un prêche magnifique en une seconde.
C'est un piège redoutable. La machine produit du texte, pas de la conscience. Elle n'a aucune responsabilité morale. Si le conseil détruit une vie, elle s'en fiche.
Demander une direction morale à une IA, c'est vraiment comme utiliser un GPS pour son âme.
C'est exactement ça.
Le GPS calcule la route la plus rapide, mais il n'a aucune idée de si la destination est bonne pour nous. Il s'en fout si on tombe dans le ravin. Il n'a pas de peau dans le jeu.
Zéro peau dans le jeu, oui. Et cette absence de responsabilité, elle alimente un autre fléau dont parle l'auteur, la guerre cognitive industrialisée.
Les fameux deepfakes et les fausses nouvelles.
Voilà. L'IA a réduit à néant le coût de production du mensonge. Avant, manipuler l'opinion, ça coûtait cher. Aujourd'hui, fabriquer des fausses preuves, c'est instantané et presque gratuit.
C'est cette histoire de réseau antagoniste, non ? Deux IA qui s'affrontent. Une qui crée le faux, l'autre qui essaye de le détecter jusqu'à ce que ce soit parfait.
C'est ça. On peut faire dire n'importe quoi à un politique avec un simple clavier. Et face à ça, beaucoup d'États veulent juste censurer.
Couper les réseaux.
Sauf que le livre est clair. La censure, c'est une ligne Maginot illusoire. La vraie défense, elle est dans l'esprit des gens.
On en revient à l'académie et à l'éducation, formée à l'esprit critique.
Il faut un entraînement mental massif pour instaurer un doute sain face au contenu. Forger des esprits résilients au lieu d'ériger les murs numériques.
Tout ça nous ramène vraiment au concept central du livre, ce fameux dernier examen de l'humanité.
Oui, et cet examen, c'est pas un concours de calcul. L'humain a déjà perdu ça, on battra jamais des serveurs.
La vraie épreuve, c'est de sanctuariser notre différence, notre capacité à hésiter.
Et à sentir le poids du contexte, à accepter qu'on est imparfait. Et surtout, à endosser la responsabilité d'une décision. La machine optimise, l'humain choisit la compassion.
C'est un message tellement puissant. Ce livre sur le Maroc, c'est en fait un miroir pour nous tous. À chaque fois qu'on délègue un mail d'Elitia ou une décision à ChatGPT, on perd un peu de ce muscle intellectuel.
Surtout pour les nouvelles générations, l'effort intellectuel devient une anomalie, alors que c'est le moteur de l'esprit critique.
Le futur appartient vraiment à ceux qui refuseront l'abdication douce de la pensée, ceux qui protégeront leur droit de penser lentement. Mais, et ça c'est une pensée qui me hante un peu après cette lecture, le livre nous exhorte à chérir notre hésitation et notre doute moral face aux machines.
Oui, c'est notre rempart.
Sauf que, réfléchissons au progrès fulgurant de l'IA. Si demain, les développeurs arrivent à coder une IA qui simule parfaitement cette hésitation.
Une machine qui feint, doute.
Voilà. Une machine programmée pour afficher des doutes moraux avec des pauses, des soupirs synthétiques, une fausse empathie tellement parfaite qu'on ne peut plus faire la différence avec un vrai humain. Est-ce que finalement l'humanité renoncera pas à passer ce dernier examen de son plein gré juste parce que l'illusion sera devenue beaucoup trop réconfortante ?
C'est la question à 1 million de dollars. Et je crois que c'est précisément là que l'examen commence.
C'est clair. Et c'est là-dessus qu'on va laisser tout le monde réfléchir. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration. Prenez soin de vos doutes et à la prochaine.